Rennes et Cinéma et le collectif Boustan El Khamstache. C'est un collectif syrien pour lequel on est en train de réaliser cette tournée-là. Comment on a rencontré Boustan El Khamstache, qui veut dire le 15e jardin. Après être parti avec ma frangine Zoé, on est parti tous les deux vivre au Liban l'année dernière. On a passé 6 mois là-bas. Au Liban, on a travaillé à la Beyrouth et moi dans la Bekaa, qui est une vallée agricole qui est à l'intérieur du pays, derrière les montagnes, où je faisais un stage de recherche en agriculture. Et à la fin de ce voyage-là, en fait, en ce moment, tu es complètement attrapé par ce qui se passe en Syrie, parce que le Liban, c'est un tout petit territoire, c'est plus petit que la PACA, un peu plus gros que la Corse, à peine. Et il y a 4 millions d'habitants là-bas. Et avec le conflit syrien, la Syrie forme quasiment toutes les frontières du pays, sauf au sud où c'est Israël. Avec le conflit là-bas, il y a 2 millions de Syriens qui ont débarqué dans le pays. 2 millions pour 4 millions d'habitants. En 4 ans. Et une grande partie d'entre eux donc, sont réfugiés et vivent soit dans les villes, soit dans des tentes. Il y a des campements, il y en a des officiels de l'ONU et d'autres... qui sont un peu dans les interstices ruraux et urbains du pays. Et du coup, voilà, tu te fais attraper par cette situation-là. Et tout transpire un peu la Syrie là-bas. Quoi. Du coup, en fait, à la fin de ce voyage, on a rencontré des membres du collectif Boustan El Khamstache, qui, en fait, au Liban, ils étaient en train de faire un potager. Enfin, un jardin partagé, pédagogique, avec les enfants réfugiés de Syrie qui sont palestiniens et qui vivaient dans les camps palestiniens de Syrie et qui étaient accueillis, comme les gens pouvaient le faire, dans les camps palestiniens du Liban. Et là, c'était à Shatila, à Beyrouth. Et à Shatila, du coup, ils ont créé une école associative parce que c'est l'ONU qui gère les écoles là-bas, dans les camps palestiniens. L'eau, l'électricité, la gestion des déchets, l'éducation, etc. C'est pas géré par l'État libanais, c'est géré par l'ONU et puis l'UNRWA et les partis politiques palestiniens. Et du coup, c'est des conditions qui sont très difficiles. Et ils ont refusé de prendre en charge les enfants qui arrivaient de Syrie, les Palestiniens syriens. Et du coup, ils ont créé des écoles associatives et le collectif nous a invités à faire un jardin partagé sur le toit de l'école. Et c'est comme ça donc, qu'on a appris à se connaître et à comprendre ce qu'ils faisaient en Syrie. Et en fait, c'est un collectif syrien qui, après le début de la guerre civile en Syrie, donc en 2011, commence la révolution, qui devient armée après plusieurs mois et se transforme en guerre civile. Et où, en fait, les différents groupes armés et milices vont utiliser la faim, l'alimentation, comme arme pour asservir, pour casser les élans populaires dans différents coins. Quoi. Et du coup, on trouve à Damas, dans la banlieue de Damas, ou dans les grandes villes qui vivent la révolution, à Homs, à Alep, etc., des zones qui sont en état de siège militarisé, et où personne ne rentre, personne ne sort, et la nourriture non plus. Donc les gens là-bas s'organisent pour se mettre à produire de l'aliment sur place. Et ils ont fait un tas de jardins partagés, dans ces espaces urbains là, ils vont nettoyer des décharges de quartiers qui vont complètement nettoyer, apporter des quantités de terre pour faire un sol et mettre en culture. On a quelques photos qu'on peut vous passer en même temps. Zozo, super. Donc ouais, on a quelques images de jardin partagé là-bas. Voilà, ça c'est à Damas. Dans la banlieue de Damas.
Ah, c'est sur les toits.
Ouais, ouais. ça peut être tout n'importe quoi.
Yarmouk, c'est vraiment c'est une grosse zone de. Enfin, ça, c'est Yarmouk, c'est le. C'est historiquement le camp palestinien de Beyrouth, enfin de Damas en Syrie. C'est le plus grand. Il y a 500 000 personnes qui vivent dans ce quartier de Damas et c'est le plus grand endroit en concentration. C'est là où il y a le plus de Palestiniens hors Palestine de tout le Moyen-Orient. Donc c'est vraiment un immense camp, c'est un peu la capitale de la Palestine, hors Palestine. Quoi. Et ça s'appelle Yarmouk. Ouais. Et d'ailleurs, le long métrage qu'on voudrait vous montrer après, ça se passe également dans ce quartier-là de Damas. Et voilà, donc c'est juste ces pleins de blocs de béton additionnés les uns sur les autres, et ça s'étend pas, si tu veux, c'est juste ça s'additionne en fait
en hauteur
quoi. Et voilà, donc les seuls espaces qu'il y ait, c'est beaucoup sur les toits. Ou alors il faut vraiment nettoyer une décharge, il n'y a pas d'espace que tu peux mettre en culture. Donc le premier jardin partagé, c'était sur les toits.
C'est quoi qui cultive là par exemple?
Il doit y avoir des patates, il doit y avoir
des pieds de tomates.
Ouais.
Il cultive des paraboles aussi.
Du coup, voilà, il y a plein de types différents. Des fois aussi. Alors, d'abord, on va présenter donc comment s'est né cet appel-là, parce que c'est donc Bustan al-Khams. Donc, c'est parti en fait du quartier de Yarmouk justement, où ils ont écrit un appel à la solidarité et au don à la collecte de semences paysannes à l'attention des cultivateurs de la zone méditerranéenne. Donc, parce qu'ils se sont rendus compte qu'une des premières choses qui leur manquait dans leurs initiatives, c'était la semence, quoi, l'origine des plantes. Et que, comme la nourriture, tu peux trouver en cherchant beaucoup un peu de tout, mais à des prix exorbitants. Un kilo de riz à Yarmouk, ça peut valoir $70 aujourd'hui. Ça fait 2 ans et demi que c'est en état de siège. Et à Amnesty International, ils recensent il y a 250 décès de malnutrition et de famine. C'est vraiment fort, quoi. Et du coup, ils demandent des semences, et ils demandent particulièrement des semences paysannes, puisque comme rien ne peut être échangé, il faut pouvoir ressemer année après année tes graines. Et comme tu ne peux pas trouver facilement d'engrais, de tous les produits agricoles, commerciaux, c'est de l'autonomie forcée, quoi. Donc tu fais aussi forcément de l'agriculture biologique de façon forcée. Et voilà, donc il y avait des Allemandes en fait qui ont vécu à Yarmouk avant la guerre, pendant 2 ans. Et ces filles-là, elles ont un collectif agricole autogéré en banlieue de Berlin. C'est des filles hyper militantes qui font un travail très intéressant. Et c'était leur interlocuteur pour lancer cet appel-là. Et elles, de leur côté, elles ont commencé à relayer ça au travers de l'Allemagne d'abord, puis elles ont été en Grèce, où elles ont rencontré le réseau Peliti, qui est un réseau de tout le pays, de jardiniers, de maraîchers qui font de la science paysanne, qui ont réagi hyper vite et fortement. Ils ont proposé à tous leurs jardiniers de donner les graines qu'ils voulaient, en quantité qu'ils voulaient. Donc il y a énormément de semences grecques qui partent là-bas. Il y a des Autrichiens qui s'organisent aussi. En Palestine, maintenant, il y avait une asso qui s'occupe des semences paysannes, qui fait partie du réseau. Et puis nous, on essaie de faire maintenant la même chose en France. Donc voilà, ça a essaimé un peu partout à l'extérieur, dans la zone méditerranéenne, et aussi à l'intérieur de la Syrie. Il y a d'autres personnes, d'autres collectifs qui faisaient des jardins partagés dans d'autres endroits, ou qui essayaient de relancer une activité agricole en zone rurale, parce qu'il y a énormément de populations déplacées, de zones détruites, mais voilà, ils vont essayer de relancer quelque chose ailleurs. Et donc, ils se sont emparés de cet appel-là, ont demandé s'ils pouvaient participer, recevoir des semences. Et du coup, ça a essaimé aujourd'hui dans la Syrie. C'est des dizaines et des dizaines de collectifs. Des fois, c'est une personne qui a une ferme et qui demande quelques graines. Des fois, c'est plein de choses différentes. Ils organisent des séminaires de rencontres, des moments de rencontres aux frontières syriennes, au Liban et en Turquie, où on invite les membres de Syrie qui le peuvent à venir, et les membres des réseaux de solidarité à l'extérieur à venir aussi pour se rencontrer, faire une semaine d'échanges, de remontées d'informations de terrain, de rencontres et de formation aussi, et de distribution des semences, avec les infos qui vont avec. Après, il y a des demandes spéciales, genre il y en a qui se sont mis à la culture de champignons. Du coup, la dernière fois, ils ont fait un truc sur comment faire les pains de culture de champignons. Il y en a qui ont fait des réseaux de compostage dans les zones comme Yarmouk pour valoriser les déchets ménagers. Et du coup, ils vont rencontrer tous les habitants pour leur expliquer comment le faire. Et ils ont installé des composts de quartier. Voilà, il y a différentes initiatives. Bon, là, nous, on est sur le plan agricole, mais il faut se dire que dans toutes ces zones-là, il y a, sur tous les domaines de la vie, il y a une autogestion forcée. Parce que des fois, ça fait plus de 3 ans qu'ils sont en état sans état, quoi. Donc les écoles, la santé, l'énergie, parce que le fuel coûte super cher. Toutes les choses demandent à... Il y a aussi, ils construisent des antennes pour avoir Internet qu'ils ont construit eux-mêmes, ils font des radios libres, etc. Ouais, il y a des endroits où c'est permis et d'autres où il y a la situation des milices, etc., permet pas que les écoles, etc., se fassent. C'est hyper varié hein, ce qui se passe en Syrie. Donc, après avoir découvert ça, nous, on est rentré en France et on est resté en lien avec eux. Et puis, en janvier, on a élaboré ce projet-là, de le faire aussi, d'émettre l'appel en France. Et on utilise le moyen du cinéma, parce qu'on fait partie d'une asso de cinéma ambulant depuis longtemps. Cinéma numérique ambulant, qui travaille en fait majoritairement en Afrique, qui est né en Afrique de l'Ouest, qui est un réseau de cinéma plein air et qui a une unité en France. Et du coup, on s'est dit que c'était une belle manière d'aller à la rencontre des militants de la semence, des militants en général, de parler de la Syrie d'une manière différente que les médias, de divulguer cet appel, de le faire par le biais d'une soirée de rencontre autour du cinéma. Et puis du coup, on tourne depuis fin juin. On a commencé le 20 juin, on est parti d'abord dans la région de Fort Calquier, en PACA. Et là, on doit être à notre 20e soirée. On a fait 15 jours en PACA. À Marseille, on a fait deux projections sur la plaine. Ensuite, on est monté en Ardèche. Et l'Ardèche, on est descendu à travers les Cévennes, l'Hérault, jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Et on est remonté dans le Tarn. On arrive aujourd'hui en Ardèche. Et donc, pour nous, c'est des moments très riches de rencontres. Aussi, on apprend plein de choses sur le retour avec les gens, quoi. Sur travailler l'intelligence de la relation avec les Syriens et de l'apport des semences. Et en même temps, au fur et à mesure, on récupère des graines que les gens nous rapportent. Et on essaie de créer des liens pour la durée avec eux, pour voir si aux saisons prochaines, c'est possible de continuer à divulguer l'appel à côté. Et dans l'idée, on part en octobre, novembre, pour les prochaines rencontres du collectif qu'on a eu en Turquie. Donc, on voudrait avoir une équipe depuis la France qui vient participer. Voilà. On n'a pas vu beaucoup de photos, c'est ça ? Ouais,
non, ouais. Mais je t'ai bien écouté, Chardin. Il y a de la neige là-bas. Il y a de la neige.
Ouais.
Et ça, c'est dans la Ruta, donc c'est toute la... C'est l'oasis qui entoure Damas, du sud-est au sud-ouest. Donc c'est des zones qui sont majoritairement tenues par l'armée syrienne libre ou les groupes rebelles. Et qui sont des régions très agricoles, en fait. Mais voilà, il y a des gros problèmes de restriction d'eau. Ça continue quand même à cultiver un peu.
Et Damas, c'est à plus de 600 mètres d'altitude, ouais. Juste derrière des montagnes.
Là, on voit la montagne.
Voilà, la montagne qui va la séparer du Liban.
Ouais.
Qui sépare la Syrie du Liban. Et du coup, là-bas, tu vois, l'hiver dernier qui a été très rude, il y a eu 2 mois de neige où elle est restée vraiment... En fait, toute la Syrie, du nord au sud, elle est, enfin, il y a une chaîne de montagnes qui fait du nord au sud, et c'est là qu'il y a toutes les grandes villes, Alep, Homs, Hama, etc. Donc, c'est des zones qui ne sont pas si désertiques et chaudes comme ça. Il y a des hivers bien marqués, quoi.
Et puis des étés, il n'y a pas eu d'eau. L'été, nous, on y était, l'été dernier, il n'y a pas eu d'eau, quoi. Pendant 2 mois, il n'y a plus de pluie. Ça, c'est les amis du collectif allemand, donc ceux qui ont une ferme à Berlin. Voilà, donc Julia, c'est la fille aux cheveux courts, brun, qui est sur la gauche. C'est vraiment elle qui est le relais du collectif syrien en Allemagne.
Et là-haut.
Ouais.
Et du coup, ils ont fait un jardin partagé là-bas en Allemagne, parce qu'à Berlin, il y a un camp de réfugiés qui s'est mise en place cette année, où les réfugiés somaliens, érythréens, syriens, de n'importe où, s'installent sous tente, quoi, comme au Proche-Orient. Et du coup, ils ont réussi à récupérer des terres qui sont autour du camp.
Mais du coup, l'État, en fait, des terres qui appartenaient à l'État, leur ont été prêtées pour faire de la maison de culture. Du coup, ça permet aux personnes qui vivent dans le campement à Berlin d'aller cultiver ces terres-là et de pouvoir manger les fruits et légumes. Et puis, ça permet aussi d'avoir une place au niveau local, d'avoir une occupation et puis de sentir aussi que tu es un minimum bienvenu, quoi, quand même. Ça, c'est le relais au Liban, donc NSAR, qui est vraiment tout le relais au Liban, qui s'occupe, nous, quand on achemine des semences de la France au Liban, de les faire parvenir aux bonnes personnes, aux bons endroits en Syrie. Donc, c'est celle qui a la queue de cheval sur la gauche. Et celle qui est à droite, c'est une copine française qui est donc partie au Liban avec le premier colis qu'on a envoyé, je crois que c'était au mois de mars. Voilà, donc c'est Ansar avec les petits sachets. Donc là, ils font la redistribution. Et ça, c'est un des campements qu'il y a dans la Beka au Liban. Et voilà, ça, c'est des photos qui sont pour nous assez fortes, mais qui illustrent vraiment comment ça se passe, quoi. Donc, il y a les espaces sur les toits, dans les zones urbaines, mais il y a aussi les personnes qui sont dans les camps et qui essayent de cultiver un peu dans le moindre interstice qui puisse exister. Donc, c'est vraiment entre le mur et la toile de tente, quoi. Donc, voilà, pour faire des petits jardins un peu partout.
Ça pousse quand même. Il y a une forte dimension, pas que alimentaire, de ces jardins, mais aussi de cultiver, de faire quelque chose de ces journées, tu vois. Parce que sinon, tu fais que attendre, et là, ça fait plusieurs années, quoi, où tu t'attends et on ne donne pas, t'as pas d'occupation. Et tu vois, tu sens que ça fait du bien aussi, et ça fait partie de ce processus-là, quoi.
Ça, c'est un dessin de projet. Un jeune français, mais ce dessin, il a été fait en Tunisie pendant la révolution tunisienne. Donc, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Je sais pas si on le dessine, ouais. Ouais. Bon, c'est un peu un hommage aussi pour lui.
Ah, c'est toutes les images qu'on a.
Ouais. Ouais, je ne sais pas s'il y a des questions ou si on vous présente. Enfin, en fait, l'idée aussi, c'est qu'on puisse enchaîner assez vite. On a pas mal de courts-métrages à vous montrer avec différents points de vue et différentes situations de ce qui se passe en Syrie. Et il y a une heure de programmation. Et comme ça permet vraiment d'après de discuter ensemble, de se poser. Avant qu'on passe le grand film, le docu Les Chevaux de Yarmouk.
Les graines, elles partent quand?
Mais elles partent au fur et à mesure. Quand, en fait, pour l'instant, tout le monde fonctionne sur quand il y a des voyageurs qu'on connaît qui vont aller à Beyrouth, au Liban ou en Turquie, et qui nous préviennent, et du coup, on leur donne 3 kilos, 5 kilos, surtout des semences maraîchères pour l'instant qu'on arrive à transporter, quoi, parce que avec moins de volume et de poids, on peut faire des surfaces. Et du coup, voilà, ça part au fur et à mesure. Là, avec la quantité qu'on a pendant la tournée, on va devoir trouver d'autres moyens plus importants. Donc, on réfléchissait à y aller en camion. On a eu un problème sur notre camion. En fait, on a rencontré pendant une soirée comme celle-là un collectif marseillais qui a un bateau, qui a acheté un bateau de manière associative et qui nous propose de nous emmener en Turquie avec eux, avec les graines.
En bateau.
Ouais, en bateau, en voilier.
Ça s'appelle l'Albatros.
Donc ça, je sais pas trop y croire, mais je le vois, mais si ça se fait, ce serait bien. Comment? Pour passer en Syrie après? C'est pas déclaré, quoi, c'est complètement clandestin. Ouais. En fait, les frontières syriennes, elles sont gérées soit par l'État, soit par des milices. Et dedans les milices, t'as les rebelles de l'armée syrienne libre, les Al-Qaïda en Syrie, Daesh, les Kurdes, etc. Au Liban, toutes les frontières, elles sont gérées par l'État. Du coup, ceux qui passent, soit c'est qu'ils peuvent passer et ils cachent un peu de quantité, soit pour les zones rebelles, ils le font à travers les montagnes, pour eux-mêmes, pour diverses raisons, ils doivent aller au Liban et du coup ils embarquent les graines comme ça. Et après, pour les frontières qui sont gérées par les rebelles, c'est plus simple. Je sais pas si.
Quand c'est quelqu'un qui part en avion, c'est plus simple.
Non, quand les frontières sont gérées par les rebelles.
Non, mais quand vous partez du
Sud. Ouais, mais les avions, ils n'arrivent pas en Syrie. Ils arrivent au Liban ou en Turquie.
Et pourquoi c'est plus facile avec les rebelles alors?
Mais moi, après, je suis pas spécialiste de comment sont gérées. Enfin, je sais pas vraiment comment sont gérées les frontières. Les frontières rebelles.
Ils s'en fichent de ça.
Ouais, je pense que ça passe plus facilement.
Ils s'en fichent.
Ouais, ouais. Et puis, ouais, tout à fait. Tandis que l'État de Bachar, c'est-à-dire le régime bassiste, c'est un régime socialiste totalitaire depuis toujours, qui gère tout, quoi. Quand il y a tout. C'est une petite histoire que il y a des Syriens avec qui on a passé du temps sur la route. Ils avaient un arbre devant chez eux qui est mort, tu vois, avant la révolution, et ils voulaient en replanter un autre dans la rue. Et en fait, tu peux pas faire ça. Il faut demander aux autorités locales si tu peux planter un arbre chez toi. Et ça leur a pris 2 ans et demi, 3 ans à pouvoir planter un arbre. Pour se rendre compte à quel point le parti bassiste fonctionnait et prenait un pouvoir total sur la liberté. Dès que tu avais une action sur le commun, sur plus ou moins politique, tu vois, rien qu'un arbre. Et du coup, la question des semences, elle était extrêmement gérée par la politique publique agricole. C'était politique de planification. Et interdiction de conserver ses semences chez soi. En fait, il fallait rendre toutes les semences et les récoltes aux appareils d'État, avec des silos. Et aux périodes de semis, on te redistribue les semences auxquelles tu as droit et puis qu'on veut que tu produises. Comme ça, ils imposaient notamment la culture de coton dans tout le bassin mésopotamien. Ils faisaient la culture de coton de façon industrielle. Avec des pompages des eaux fossiles, il y a des nappes fossiles à 300 mètres de profondeur. On mettait des systèmes de pompe et culture d'exportation. Voilà. Donc la souveraineté paysanne sur la question de la semence a été atteinte depuis, ça fait 40 ans que le Parti Basque est au pouvoir. Et donc déjà, ils avaient travaillé à déstructurer ces patrimoines paysans-là.
À planifier,
oui. Du coup, la situation de guerre, elle fait partie aussi des processus de destruction des patrimoines paysans et des patrimoines, tu vois, sociaux, des liens qui peuvent exister, quoi. Il y a un exemple en Irak, les Américains, en 2003, ils ont bombardé la banque nationale publique de semences du pays. Elle a été détruite par l'aviation américaine. Un choix militaire important.
Arme de destruction massive.
Voilà. Et derrière, on écrit la nouvelle constitution du pays avec le nouveau pouvoir qu'on met en place. On intègre dedans le droit de propriété sur le vivant, etc. Et puis ensuite, c'est les ONG de développement qui viennent aider le pays à se reconstruire, qui distribuent des milliers de tonnes de semences hybrides. Et voilà, on déstructure les patrimoines, les choses qui existent pour créer des marchés. Ça fait partie du processus, donc.
Donc, c'est dans l'agenda
ouais,
dès le début.
Donc les rebelles, à contrario, ils ont tout intérêt à recréer, à restructurer l'agriculture et eux à laisser filtrer justement tous ceux qui ramènent des semences et à redynamiser tout ça. Hein.
Ouais.
Donc eux, ils laissent se passer librement quand même.
Je sais pas si c'est...
Pas leur intérêt, plutôt un désintérêt.
Ouais, c'est ça, c'est plutôt dans leur intérêt du fait que la population, il faut qu'elle se nourrisse et il faut qu'il y ait des aliments, quoi, faut que ça pousse. Oui, bien sûr. Après, je sais pas si. Enfin, je sais pas à quel niveau.
Leur intérêt, c'est l'intérêt de la population.
Voilà. Ouais, c'est ça.
Voilà.
Ouais.
C'est pas les intérêts.
Ouais. Après, je sais pas à quel niveau ils se disent oh, c'est de la semence paysanne, on laisse passer. Oh, c'est de la semence hybride, on laisse passer.
Oui, enfin, non, pas. Oui,
je pense
qu'à
partir
non.
du moment où tu peux manger, tu laisses
ouais,
passer.
Voilà. Ouais.
Mais effectivement, ce qui est intéressant, enfin, moi ce que j'aime bien aussi dans cet appel, c'est tout ce re-questionnement de qu'est-ce que c'est de faire pousser chez soi. Tu vois, quand on voit l'image là à Yarmouk du jardin sur le toit, c'est aussi des gens qui n'avaient jamais cultivé auparavant et là qui ont besoin de cultiver, de mettre les mains dans la terre et de comprendre comment ça fonctionne. Donc nous, quand il y a les moments de rencontre aux frontières, c'est aussi l'occasion de se reposer, d'échanger beaucoup de savoir-faire et puis de... On, on a des personnes qui viennent qui ont des niveaux complètement différents de connaissances, quoi. Donc il y a aussi, nous, dans le travail qu'on aimerait bien mettre en place, aussi beaucoup d'échanges, enfin, des dossiers, tu vois, à traduire, des manuels pédagogiques, des tutoriels. Il y a aussi tout ce niveau-là de traduction qu'il faut qu'on mette en place, de rédaction et de compréhension de ce qu'il y a besoin aussi sur place, quoi.
Et puis de mettre en échange, qu'ils arrivent à communiquer entre eux, quoi.
Ouais.
Grâce à ce réseau-là, il y a un réseau sur Internet où ils sont. Tu peux t'envoyer des photos, des nouvelles, des questions, des documents que tu partages aux autres, etc. Et ça, c'est hyper fort, je pense, pour les gens qui sont enclavés, tu vois, en état de siège, etc. C'est d'avoir des nouvelles de l'extérieur, de voir qu'il y en a d'autres qui font des choses similaires, de s'entraider là-dessus, quoi.
C'est des gens de partout aussi, c'est ça qui est intéressant. Donc, tu as des citadins, tu as des personnes de campagne, tu as des Palestiniens, il y a des Sunnites, il y a plein de gens différents, en fait, mais qui ont tous besoin à peu près de la même chose, quoi.
Donc, ça fait des liens aussi.
Il y a les Kurdes aussi qui sont dedans.
Ouais, il y a des Kurdes, ouais.
Ça transcende un peu les. Ouais. Parce que les forces politiques ont essayé de cliver la société syrienne, tu vois, le plus possible. Ouais.
Ouais, je pense à l'arabe, l'allemand
vers le kurde. Ça, c'est partout.
Plutôt anglais vers arabe ou arabe vers anglais.
Et comment ont accueilli les Libanais, en fait, ces réfugiés syriens? Parce que quand même, pendant des années, il y a eu une occupation syrienne.
Mmh.
Et alors, comment ça se passait, en fait, si les gens ils ont été accueillis, les réfugiés ont été accueillis sans eux, bienvenus, enfin, ou bien s'il y a eu des conflits, des querelles, parce qu'auparavant, ils ont vécu l'enfer.
Ouais. Forcément, tu as des querelles, des conflits, dans le sens où c'est 2 millions de personnes en 3 ans qui sont arrivées sur le territoire. Pour 4 millions d'habitants, quoi.
Ouais.
Donc sur un territoire qui est plus petit que la PACA, hein, donc forcément il y a des moments de tension, mais après, en tout cas moi, de nous, ce qu'on a vu, des amis qu'on a rencontrés, oui, t'as une tension, mais t'as aussi une tension du fait que ces Syriens qui sont là, ils savent pas s'ils vont rester longtemps, ils savent pas dans quelle mesure ils peuvent s'adapter, prendre de la place, louer un appart, est-ce qu'il faut construire quelque chose au Liban, est-ce qu'il faut continuer à penser aux amis, enfin tu vois, t'as aussi tout ce truc de l'exil, du réfugié, de la personne déracinée, quoi. Mais en tout cas, après c'est compliqué, t'as beaucoup de gens dans les camps, mais les Libanais, enfin si tu veux, je pense qu'ils sont tellement déjà traumatisés par leur guerre civile, les 30 ans de guerre civile qu'ils ont vécu, que tu vois, il y a encore des Libanais qui vivent dans Beyrouth Est qui retourneront jamais à Beyrouth Ouest, toi. Ils savent exactement combien de morts sont tombés dans cette rue, dans cette rue, tu vois. Donc il y a aussi ce traumatisme là et il y a la volonté des Libanais de pas rentrer dans une guerre, enfin tu vois, de pas aussi faire partie de cette guerre là et de garder la paix à tout prix aussi, quoi.
Donc, ouais, je trouve ça assez miraculeux qu'il y ait eu si peu de heurts depuis 4 ans, quoi. Et il y a un truc qui se disait dans la VK, c'est que les Libanais ont beaucoup été se réfugier en Syrie aussi quand il y avait la guerre civile au Liban, et du coup il y a eu un peu un truc comme ça de retour, quoi.
D'accord.
Et puis après, la Syrie et le Liban, c'est deux pays qui sont hyper proches, dont les frontières ont été créées à un moment, tu vois, mais les Syriens, enfin, il y avait beaucoup d'échanges. Du coup, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Et puis après, tu as un peu des groupes affinitaires par la communauté, donc il y a plus de Syriens de tel type ou quoi.
Mais c'est vrai que ça s'est
Hein?
Moi, je dis, c'est vrai que c'est quand même assez incroyable, la cohabitation.
Ouais.
Après, il y a des endroits, enfin. Mais si tu veux, ça dépend aussi des crises politiques, parce que du coup, tu as quand même le Hezbollah qui tient tout le sud, enfin, qui dirige le Liban, qui est vraiment coupé en deux, qui dirige le sud et tout, qui est quand même parti défendre Bachar al-Assad. Donc tu as aussi ce truc-là, qui est à la fois identitaire, mais surtout politique, qui pose quand même une base assez difficile, quoi. Et puis,
les Libanais, ils font la guerre, beaucoup de Libanais font la guerre en Syrie,
ouais.
Soit des personnes, soit des partis politiques. Et des fois, ils sont dans les voisins, quoi, et ils font la guerre l'un les uns contre les autres, mais en Syrie, quoi. Donc, c'est quand même assez tendu. Et pour les Syriens, dans l'année où nous, on était là-bas, ils se sentaient quand même pas protégés, ils se sentaient pas en sécurité au Liban, quoi.
Il y a quand même des quartiers de Beyrouth où, parfois, nous, on a vécu des couvre-feux pour les Syriens. pas de Syriens dehors après 20h, quoi, dans certains quartiers. Donc, et puis quelques, tu vois, des fois le cas d'un Syrien qui se promène et puis qui se fait enlever comme ça au milieu de la nuit et qu'on retrouve le lendemain, enfin toujours vivant, hein, tu vois, mais voilà, qu'on a pris, qu'on a interrogé de façon un peu violente et qu'on a relâché.
Des fois, ils n'osent pas, tu vois, ils ont un peu. Ils n'osent pas parler parce qu'on va entendre leur accent, et dans le taxi ou dans les bus, tu vois, ils n'osent pas trop s'exprimer parce qu'on va dire ouais, c'est de votre faute, c'est le bordel dans la région, elle pensait qu'à vous avec votre révolution. Enfin, plein de discours différents, tu vois, de tout et n'importe quoi. Mais ils n'aiment pas, enfin, s'ils le peuvent, ils préfèrent quitter le Liban pour aller ailleurs.
On les pousse aussi à quitter le Liban. Enfin, ceux qui peuvent quitter le Liban, on les pousse à quitter le Liban. Après, c'est hyper dur. Hein. Enfin, il y a tellement peu de Syriens qui ont été accueillis en France, par exemple. Enfin, c'est 800 Syriens qui ont été accueillis sur le territoire français, quoi. C'est rien du tout. Enfin, il y a eu quand même 10 millions de déplacés en Syrie. Donc, tu vois, 800
réfugiés politiques,
c'est
rien. Ouais.
C'est précis.
Pour 2 millions au Liban.
C'est ridicule,
quoi.
Toi, c'est mieux
que
le Canada,
encore. Ah. Le Canada, c'est... Oh, le Canada, laisse tomber. Au moment de la guerre, les Kurdes, ils sont les Kurdes dans tout le Canada.
Ouais.
La 18 fois la France. Ouais.
L'espace.
Ouais. C'est super généreux.
Ouais, alors du coup, bah, les films qu'on voulait vous montrer, c'est... ouais, c'est un panel un peu de regards différents. On a deux petits portraits de personnes qu'on a rencontrées là pendant notre tournée, qui nous ont donné des semences. Donc c'est un peu aussi, elles, leur message à faire passer pendant la tournée, et aussi aux copains syriens qui ont planté leurs semences. Et on voulait vous emmener au Moyen-Orient avec grâce à la flûte de Naïssa Mjalal, qui est une palestinienne qui vivait à Yarmouk, qui est maintenant réfugiée en France, et qui fait de la flûte, et c'est elle son regard dans la ville de Beyrouth, donc la capitale du Liban. Et ensuite, on voulait vous... Alors, il y a un très beau travail qui est fait depuis 2011, qui est porté par Arte, qui s'appelle « Syrie, journaux intimes d'une révolution ». Il y a quelqu'un qui veut rentrer. Et en fait, ce projet, c'est un web documentaire. L'idée, c'était au départ de raconter ce qui se passait, comment se passait la révolution. C'était vraiment de filmer la révolution et qu'elle soit filmée par des journalistes citoyens, donc des gens ordinaires qui vivaient cette révolution et qui se filmaient la racontant à leur téléphone portable. Et donc voilà, c'était vraiment le portrait d'une révolution, mais cette révolution s'est transformée en guerre civile. Et ce court projet, ça fait maintenant 4 ans qu'il est porté sur la toile, et donc et qui est porté par 6 journalistes citoyens aujourd'hui. Donc voilà, on va vous montrer, c'est un petit 12 minutes qui présente ce projet-là, qui raconte l'histoire du projet et qui aussi nous sert, nous, à recontextualiser un peu... l'histoire du début de la révolution jusqu'à aujourd'hui. Donc, bon, la forme est un peu particulière, mais voilà, c'est un teaser un peu commercial, mais nous, il nous permet quand même de poser un cadre. Et qu'est-ce qu'on voulait montrer d'autre après ? Et après, on voulait vous montrer aussi « Quatrième étage après la Nakba ». Donc, c'est un film qui a été fait en l'hommage d'un garçon qui s'appelle Hassan, qui est un réalisateur qui vit à Yarmouk. Donc, c'est... les dernières images qu'a filmé Hassan, qui a été monté par ses amis. Et voilà, donc ce film-là, pour nous, c'est un témoignage assez bouleversant qu'on aime beaucoup. Et en fait, cette bande de copains, c'est les Chebabs de Yarmouk. Donc c'est la bande de copains du documentaire qu'on voudrait... que s'il reste encore des personnes dans la salle, c'est leur histoire à eux.